Bonjour à toutes et à tous, ici Fanny, bienvenue dans cet audio dédié à connaître un petit peu plus ce qu'est la blessure de la mère. Alors comme je vous le disais en introduction, ça risque peut-être de soulever des choses en vous, des souvenirs, des mémoires, peut-être simplement des charges émotionnelles, cet audio-là. En tout cas, ça l'a fait pour moi de façon très intense au moment de l'écrire. Au moment de l'écriture. Et voilà, sachez donc que c'est tout à fait normal, que vous pouvez mettre sur pause, que vous pouvez étaler l'écoute. Je vais aller un petit peu crescendo dans l'explication de la blessure. Donc si la deuxième partie, la troisième partie ou la fin de l'audio est un petit peu plus compliquée pour vous, c'est normal. Voilà, je l'ai créé comme ça, pour pouvoir en fait monter progressivement en intensité. Très bien. Alors, la blessure de la mère, comment elle se voit, comment elle se crée, à quoi elle ressemble, et puis comment, sans tout à fait plonger dedans, sans avoir conscience que c'est ça, elle est déjà active. Forcément, elle est déjà active, mais quand on n'en a pas conscience, c'est un peu comme une espèce de nostalgie indéfinie que l'on ressent. Et cette nostalgie maternelle-là affecte majoritairement les femmes. Souvent, d'ailleurs, sur tellement de plans, sur tellement de niveaux, qu'une fois adulte, elle est non seulement impactée par cette nostalgie, cette blessure, hein, pour tout le temps de sa vie de femme, donc tout le temps de son incarnation, va être impacté par cette blessure, mais aussi parce que cette blessure passe à travers les générations. C'est une expérience qui ressemble au niveau de son énergie à celle d'avoir un cœur brisé, mais qui aurait un petit peu aussi cette dimension d'avoir été hérité des ancêtres. Et comme si du coup, on arrivait dans cette incarnation avec ce cœur brisé. C'est une peine si profonde qu'elle semble installée dans une chambre secrète à l'intérieur du cœur qui va torturer le cœur et l'empêcher de fonctionner normalement. Donc c'est un peu plus qu'une nostalgie. Ça peut aller même jusqu'à une torture intérieure dont on ne connaît pas la source. Donc, en fait, plutôt, dont on n'a pas le courage d'aller voir, parce que c'est difficile. On voit trop rarement que cet attachement qui est absolument primordial, essentiel, primaire, est pauvre, en fait, sec. Parce qu'on est trop occupé à être de gentilles filles, trop entraînés à être des enfants bien sages, en fait, trop occupés à survivre, alors nous minimisons le comportement de nos parents, et en particulier ici de notre mère, même si ce comportement-là nous fait du mal. Et d'un autre côté, parce que on est incapable de voir la réalité du comportement de notre mère, parce que c'est beaucoup trop ingérable pour nous, on va avoir un ressentiment immense qui va se terrer en nous, donc dans cette chambre du cœur, et dont nous n'arrivons pas à trouver l'origine. On tourne autour du pot parce qu'on n'est pas prêt à cette grande claque dans le visage. Aujourd'hui, nous apprenons là qu'il est tout à fait normal d'éprouver cette résistance-là, de tourner autour du pot. On a l'impression qu'on lit des livres de développement personnel, on va à des stages, on avance dans notre psychothérapie, et pourtant on a l'impression qu'on ne touche pas encore du doigt l'origine, le centre. C'est une résistance à aller faire face en fait à cette blessure et à la colère qu'elle engendre. Parce que ça fait partie du deuil, en fait, du deuil de l'amour. Parce que ce manque de présence de la mère, qu'il soit d'ordre physique ou émotionnel, et émotionnel souvent, et va engendrer en nous un vide, une faim insatiable d'amour, mais pas n'importe quel amour, de ce que l'on veut désespérément, total, fusionnel. C'est un amour qualitatif, c'est-à-dire, par là, à la fois nourrissant, sécurisant et inspirant. Et cela n'est rien d'autre que le type d'amour que nous donne, de façon primaire et primordiale, fondamentale, une mère. Celui dont nous avons besoin, en fait, pour commencer une vie sur Terre de la meilleure des façons, en nous donnant, en fait, tous les outils nécessaires. C'est un amour inconditionnel qui n'est ni romantique, ni amical, ni achetable par des cadeaux ou de l'argent. Pour l'être humain, materner, c'est tout simplement le comportement le plus important, mais aussi le plus difficile finalement à définir. L'auteur Kelly McDaniel, sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer ici, explique que l'amour entre une mère et un enfant se décompose en trois éléments essentiels de base. Nourrir, protéger et guider, c'est ça que fait une mère. Ce sont trois besoins primitifs, essentiels ou tout petits. S'ils sont privés de l'un ou de l'autre, d'importants symptômes vont se former, en particulier ce qu'on appelle un attachement non sécurisé, qui va modeler ainsi tous les futurs liens relationnels. Et cela dans tous les domaines, amicaux, professionnels et amoureux. Donc nourrir, protéger et guider. Par exemple, en manque de nourriture, l'enfant va grandir en ayant un besoin inassouvi d'appartenance. Sans protection maternelle, il va vivre de l'anxiété constante. Sans guidance de la part de la mère, il sera incapable de faire les bons choix dans sa vie. Dans tous les cas, si nous n'avons pas eu suffisamment de soins maternels pendant l'enfance, la faim d'amour, ce besoin d'amour non rempli, inachevé, va rester en l'adulte. Ces besoins ne sont donc pas à minimiser, ni du point de vue de l'enfant, pour lesquels ils sont absolument nécessaires, basique, ni du point de vue de la mère, parce que remplir tous ces besoins-là va représenter pour elle une occupation constante de chaque instant. Ils lui prennent tout son temps, mais aussi toute son énergie, surtout lorsqu'elle n'est pas soutenue et entourée elle-même, pas reconnue pour ce qu'elle fait. Donc, oui, ils sont nécessaires, oui, ils sont primordiaux, mais les soins maternels sont aussi difficiles. Ainsi, je vous invite, si vous avez des enfants, à écouter cet audio à partir de votre point de vue d'enfant et non pas de parent. Il ne s'agit pas ici de se culpabiliser ou de culpabiliser les mères, mais bien de chercher, d'explorer une origine. Parce que, en fait, si on devait être tout à fait juste, ce serait toute la société qu'il faudrait culpabiliser pour son manque de soutien, pour son manque de reconnaissance du rôle de la mère. Ici, il s'agit de comprendre l'impact que la mère, elle-même blessée, a sur l'adulte une fois qu'il est formé, une fois qu'il est développé. C'est donc l'explication qu'on va chercher, la source de notre blessure encore vivante. De façon purement physiologique, lorsqu'un enfant n'a pas reçu tous les soins maternels dont il avait besoin, eh bien le cerveau ne va jamais apprendre à se relier à l'autre de façon saine. Manquer de soins a d'autres impacts, d'autres traces dans l'adulte qui a grandi, notamment, justement, je vous en parlais, de sentir ce vide en dedans, d'avoir l'impression d'un grand vide de l'âme. Un vide qui va appeler un amour insatiable, impossible à combler par un amour terrestre. C'est une fin de lien, de relation avec l'autre, telle qu'elle nous laisse l'impression, en fait, d'être toujours seul et toujours incompris dans nos besoins d'amour, comme une malédiction qui nous poursuivrait. Des besoins dont nous avons l'espoir qu'un jour ils seront enfin comblés. Parce que notre enfant intérieur n'arrête jamais d'aimer sa mère biologique. Il conserve l'espoir qu'elle satisfera un jour ses besoins. Et dans cet espoir éternel, il n'apprendra jamais comment s'aimer lui-même. Alors oui, la blessure de la mère va créer des problématiques d'attachement à l'âge adulte, où l'individu n'aura jamais finalement su à quoi ressemble une reliance saine à l'autre. Mais comment cela apparaît peu à peu? Eh bien, tout d'abord, on peut voir notre mère comme notre toute première maison. C'est d'ailleurs tout à fait vrai hein, pendant la durée de la gestation. Mais cela le reste ensuite pendant des années. En tout cas, tant que l'enfant est physiquement vulnérable. Et si cette maison n'est pas parfaitement sécurisante, que l'ambiance de la mère est donc ambivalente, pleine de peur ou de colère, ou que les réponses aux besoins du nourrisson sont inadéquates en fait, le corps de l'enfant va imprimer en lui le sentiment d'insécurité, comme si, une fois adulte, nous avons des voleurs qui s'introduisent dans notre maison. Peu importe que l'on change ensuite les verrous, que l'on pose des caméras de sécurité, il y aura toujours, dans cette maison-là, une ambiance d'insécurité qui va rester. Pour ce qui est du corps de l'enfant, c'est pas simplement juste une vague sensation. La peur du danger relâche du cortisol et de l'adrénaline, qui sont des hormones du stress et qui sont toxiques pour le développement cérébral. Les émotions sont enregistrées donc dans le corps, hein, puisque le cerveau fait partie du corps, et la façon dont le cerveau va être modelé va faire en sorte qu'il va créer tout un système de croyances mentales qui lui dit qu'il n'est pas en sécurité dans cette maison mère, et par extension, qu'il n'est pas en sécurité dans le monde. Naître est supposé être un acte qui nous fasse nous sentir comme à la maison sur Terre. Or, des manques de soins répétés en termes physiques, mais aussi émotionnels, créent une détresse dans le corps de l'enfant qui se manifeste dans la chair même. Si ces manques sont longs et répétés, eh bien ils vont produire un stress hormonal chronique, comme on a vu, un stress hormonal, mais chronique. Et ce stress, en plus d'empêcher la croissance de certains organes de manière saine à cause d'une inflammation constante, va aussi affaiblir en fait le système immunitaire, et cela dès l'enfance. Donc on voit des pathologies, des maladies chroniques qui naissent dès l'enfance et l'adolescence. Si la peur de l'enfant n'est pas calmée assez vite par les soins maternels et qu'il se répète, le corps en est affecté, donc dans sa chair, comme je le disais, mais plus précisément au niveau de l'amygdale. Donc l'amygdale au niveau du cerveau, une fois qu'elle est impactée, provoque, notamment à l'âge adulte, un sentiment de ne pas appartenir à ce monde, et aussi des difficultés à avoir des relations aimantes, c'est-à-dire, si on devait définir ce que c'est une relation aimante, c'est une relation sécurisante, une relation stable et une relation nourrissante, inspirante. Tout ça pour arriver au fait de dire que l'humain ne se remet jamais physiquement d'une réponse inadéquate de sa mère. La qualité des soins maternels que nous avons reçus vont donc conditionner notre sentiment de nous sentir méritant, aimant et en sécurité en fait, mais au point de vue cérébral, au point de vue du corps. En grandissant, bien entendu, nos besoins infantiles vont se modifier. Mais nous ne dépassons jamais cette nécessité d'être réconforté, d'être célébré ou d'être comme accompli parce qu'ils n'ont pas été satisfaits à la base quand ils avaient d'autres personnalités, en fait, lorsque nous étions enfants. Et notre enfant intérieur va tous les conserver. Notre enfant intérieur va avoir faim d'amour maternel. Notre enfant intérieur espère encore que sa mère se transformera en la mère dont il a toujours eu besoin, dont il a toujours rêvé. Et cet espoir-là est en nous. Cet espoir-là blesse l'enfant intérieur. Parce que cet espoir crée des fantaisies pathologiques, en fait, qui vont enfermer l'adulte total, donc pas simplement la partie de l'enfant intérieur, mais globalement, on va dire l'hôte de ces parties, ça va l'enfermer en fait dans des cercles vicieux de déception encore et encore et encore et de deuil qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Parce que dans la vie, l'adulte finit toujours par, normalement, se séparer de sa mère et tout le reste va n'être que des substituts à son amour. Donc les substituts s'enchaînent. Pourquoi ? Parce que du coup, aucun d'eux ne répare. Alors on en cherche d'autres, continuellement. Alors ça peut être des relations amoureuses, mais aussi, pour un enfant, ça peut être les gâteaux, les glaces, les contes de fées. Ça, tout va échouer en fait à offrir ce qu'une mère n'a pas su offrir pendant l'enfance. À l'âge adulte, ce sont donc les relations multiples, les coups d'un soir surtout, mais aussi l'alcool, les drogues, etc., qui remplacent mais qui échouent à leur tour. Pour se sentir aimé et complet, adulte, l'individu a besoin, enfant, autant de la présence physique de la mère que de son attention, sa disposition émotionnelle envers lui. Parce que l'attention, c'est aussi un aliment dont l'enfant doit se nourrir. Et c'est ce qui va conditionner son attachement primordial, la façon dont il va s'attacher. Revenons à l'amygdale pour expliquer l'attachement. C'est l'une des rares zones qui est totalement fonctionnelle dans le cerveau au moment de la naissance de l'enfant. Parce que notamment, elle assure le bon fonctionnement végétatif. Donc, un cœur qui bat, une régulation pas tout à fait complète, parce que sa mère va aussi aider l'enfant à réguler sa chaleur, par exemple. Mais voilà, l'amygdale est capable d'assurer ce fonctionnement-là qui assure la vie de l'enfant. Et c'est aussi l'amygdale qui explique pourquoi les interactions humaines initiales sont si importantes, en fait, dès ce moment-là. Parce que cette zone va capturer les sensations de l'environnement. Donc au niveau des sens, au niveau de l'ambiance, c'est le langage du nouveau-né, l'ambiance. Donc ce langage d'amour-là va passer par l'amygdale et par un ensemble de sensations corporelles. Le toucher, le son, mais aussi par des concepts de cohérence et d'uniformité en fait, de son environnement. L'instabilité au niveau des sens, au niveau de l'ambiance, va influer négativement sur l'amygdale. Donc offrir ces types de sensations à l'enfant va nécessiter de lui accorder toute son attention. Et puis c'est un petit peu naturel en fait, quand quelqu'un est important pour nous, nous lui donnons toute notre attention. Il ne s'agit pas uniquement d'être présent physiquement, mais aussi de poser son téléphone, de montrer son intérêt, son appréciation, son respect. C'est une présence, oui, mais émotionnelle. Et c'est cette présence émotionnelle-là qui va donc déterminer le développement de l'amygdale, même si elle est totalement fonctionnelle, hein, elle va être impactée, on l'a vu, et c'est elle qui va déterminer en fait le type d'attachement. Alors, premièrement, un enfant qui vit, donc le premier type d'attachement, qui est l'attachement sécurisant, ne signifie pas du tout que l'enfant est heureux constamment, ou c'est le bonheur, voilà, génial. Non, ça veut simplement dire que son cerveau va devenir entièrement fonctionnel à l'âge adulte. Positivement fonctionnel, en fait. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt un cerveau en croissance heureuse. Et obtenir cela nécessite pas une mère parfaite en attention constante avec son enfant, mais plutôt en fait qu'elle ne retire pas son attention maternelle trop souvent et sur de trop longues durées de temps. C'est plutôt en fait lui demander de faire des allers-retours d'attention avec son enfant, mais quand elle est là pleinement. Donc c'est un petit peu la qualité, la fréquence de cet aller-retour de présence émotionnelle qui va créer la confiance en la mère et un attachement de type sécurisant. Donc c'est pas seulement éprouver de l'amour pour son enfant, mais c'est aussi de réussir à lui montrer dans un langage que celui comprend, donc à la naissance, de type ambiance et sensoriel. Pourtant, notre culture à nous, même si ça change un petit peu, mais on l'entend encore malheureusement et on le conseille encore à des mamans récemment, c'est de laisser crier un bébé, de se séparer physiquement de lui, de ne pas dormir avec lui, pour obtenir qu'en fait, ça, il soit un enfant et un adulte heureux et indépendant. Or, on sait maintenant que c'est tout le contraire. On sait que les personnes qui ont grandi avec un attachement inverse, donc un attachement insécurisant, qui est fait de séparation et de manque d'attention, créent des individus excessivement dépendants. Ces individus éprouvent des difficultés, par exemple, à travailler avec les autres. Ils ont moins de patience, moins de flexibilité. Et ils ont une peur extrême de la solitude, et des conflits. Ces personnes ont appris à ne pas se tourner vers leur mère lorsqu'elles vivaient de la tristesse, de la peur, qu'elles avaient peur, voire même pire encore, quand elles vivaient de la joie. Parce qu'elles ont appris que cela pouvait affecter l'équilibre émotionnel, souvent fragile, de leur mère. Donc, elles gardaient tout pour elles. Ces personnes se rappellent peut-être même le surnom que leur mère ou leur entourage leur donnait parce qu'elles semblaient avoir trop de besoins, elles étaient trop indigentes ou trop timides, elles ne pouvaient pas aller vers les autres parce qu'elles n'avaient pas cette confiance-là. Donc, en plus, elles étaient critiquées pour cela. Ces personnes peuvent aussi avoir en mémoire physique, neuronale, d'avoir été repoussées alors qu'elles étaient en demande d'un câlin. Donc, il n'y avait pas d'attention. Et tout ça, toutes ces critiques et ces souvenirs-là émotionnels ou justement un peu plus neuronales, plus mentales, font que ces personnes grandissent avec le sentiment d'être coupable d'avoir besoin de leur mère. Alors que ce besoin est naturel, on les fait culpabiliser pour cela. Elles se sentent responsables aussi du refus de la mère à donner ça. Et donc, au final, même si c'est inconscient, elles se sentent responsables de se retrouver dans un sentiment de solitude et dans un sentiment d'insécurité. Une personne qui possède ce type d'attachement inverse, donc sécurisant, n'a pas du tout ce genre de honte, ni ce besoin d'affection. Ils ne l'ont pas. Cet attachement insécurisant, donc ce sentiment de honte d'avoir besoin et d'être responsable en fait de notre solitude et de ce sentiment d'insécurité en fait. Cet attachement insécurisant, global, insécurisant, se divise lui-même en deux types. Donc l'insécurisant se divise lui-même en deux types, l'évitant et l'anxieux. L'enfant qui a un attachement évitant apprend très tôt à faire taire ses émotions. Soit parce que sa mère était souvent incapable de répondre, donc de venir lui donner de l'attention, soit aussi parce qu'elle était surprotectrice et étouffante. Dans ces cas-là, en fait, la mère utilise son enfant pour combler un manque en elle, notamment relationnel. Elle-même est touchée par la même blessure et elle utilise son enfant. Donc, elle utilise en fait son enfant pour nourrir en elle son propre besoin d'affection. Et ça, c'est l'opposé du fonctionnement logique du lien parent-enfant. C'est une forme insidieuse de négligence émotionnelle, en fait, parce que on a l'impression qu'elle est présente, qu'elle est attentive, alors que c'est l'opposé de nourrir émotionnellement son enfant. Au contraire, c'est elle qui est nourrie par l'enfant. Donc, elle le draine. C'est l'inverse de nourrir. Et au final, l'enfant va se sentir ignoré, invalide et non reconnu, même si la présence émotionnelle est là. Les adultes, une fois adultes en fait, qui ont grandi dans cette ambiance d'attachement évitant, ne savent plus détecter ce qu'est l'intimité avec l'autre. Ils se sentent frustrés quand quelqu'un se montre à eux et a besoin d'être rassuré, parce qu'ils veulent les juger comme inférieurs, comme trop demandeurs, indigents. Le deuxième type, l'attachement anxieux, apparaît quant à lui quand une mère a de fréquents et inexpliqués changements d'humeur. Plus tard, l'adulte manquera de fondations intérieures nécessaires, absolument nécessaires, pour se sentir confortable dans une relation avec quelqu'un d'autre. Parce qu'eux, en fait, ont appris que l'amour n'existe qu'en quantité limitée. Et ils vont avoir donc des émotions très très intenses, hein, elles se marquent par leur intensité, et éprouver en fait que la solitude pour eux c'est comme une torture. Et cela vient justement du rôle nourricier de la mère. Nourrir, c'est prendre soin et encourager la croissance de quelqu'un. Nous apprenons à sentir l'amour, premièrement, par l'aspect nourricier de la mère. Une mère, c'est notre première source de nourriture. Elle nous offre à la fois de la nourriture alimentaire, bien évidemment, et celle d'un autre type, en fait, le confort. En fait, sa capacité à répondre à nos différentes fins physiques, mais aussi d'intimité, va nous renseigner directement sur le fait que nous comptons pour elle et que nous comptons du coup pour le monde. Donc, la nourriture maternelle va passer par l'alimentation, par l'émotion, mais aussi par le langage dont on avait parlé, hein, le langage du bébé, le langage de l'ambiance, le langage de ses sensations. Donc la nourriture va aussi passer par le toucher, par le contact peau à peau. Et ce contact-là va libérer de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, à la fois chez le bébé et chez la mère. Donc, se séparer de son enfant pour l'endormir dans un berceau, par exemple, prive les deux de cette hormone absolument magique, qui est un véritable support interne pour aider la mère à répondre aux besoins de son tout-petit. Si elle n'est pas entourée, si elle n'a pas de soutien, en fait, elle peut déjà se baser sur l'ocytocine. Donc, se priver de l'ocytocine, c'est se priver d'une aide précieuse intérieure. C'est se priver de s'offrir en tant que maman de la relaxation, de l'amour et du contentement rien qu'en simplement touchant son propre enfant. Les neurosciences montrent désormais à quel point la mère et l'enfant ne devraient pas être séparés jusqu'aux 3 ans, y compris la nuit et bien sûr y compris au moment de la naissance. Ce qui est à contre-courant de la culture actuelle, on en a déjà parlé, où la femme est plutôt favorisée dans son travail extérieur plutôt que dans son rôle de mère. Aujourd'hui, c'est un rôle dévalorisant pour les femmes. Je le rappelle, je ne cherche pas dans cet audio à culpabiliser les femmes qui écouteraient dans leur rôle de mère. Restez ici dans votre point de vue de fille ou de fils pour comprendre l'impact de cette blessure en vous et pas pour vous culpabiliser de l'avoir transposé à la suite de la génération. Ça peut se réparer, mais ça commence à se réparer en nous, donc l'impact de la blessure en nous. Donc on reste bien dans notre rôle d'enfant ici. On l'écoute de ce point de vue-là. Donc je reprends, après cette parenthèse, que oui, les neurosciences ont prouvé que la séparation entre la mère et l'enfant, c'est un véritable traumatisme hormonal, un traumatisme de développement en fait pour le bébé, pour le tout petit. Pour survivre, un enfant a besoin constamment d'être régulé. Et ça, c'est par le confort apporté de la mère. S'il ne l'a pas, il va devoir s'auto-réguler lui-même à un âge qui n'est pas prévu par son développement cérébral. Donc, il n'a pas les outils. Il a simplement, la seule façon en fait de s'exprimer, ça va être les pleurs. Donc, en pleurant de plus en plus fort, il crie « Aidez-moi à me réguler ». Il ne peut pas lui-même le faire. Et un enfant en fait qui se tait, c'est un enfant qui a fini par se résigner, notamment en suçant son pouce dans son propre coin. Il a trouvé une méthode d'autorégulation. Mais son développement personnel à ce moment-là, n'était absolument pas prévu pour qu'il le trouve. Donc, contrairement à ce qu'on pense, un enfant calme, silencieux, qui demande rien dans son coin, c'est pas du tout un bébé, entre guillemets, bien éduqué. C'est déjà un être, un individu résigné, dont le cerveau est déjà fortement endommagé par le stress. Une fois adulte, ça se traduit par des individus qui ont compris qu'ils ne peuvent chercher aucun soulagement dans leur relation. Le seul soulagement en fait, qu'ils connaissent, ça va passer par d'autres substituts, notamment du coup parce que le toucher, le soulagement par le toucher, c'est un soulagement nourricier, on a vu, ça fait partie de la nourriture, et bien le seul soulagement qu'ils vont connaître, nourricier, ça va être l'alimentation physique. Et c'est ainsi qu'on crée des individus qui tombent amoureux de la nourriture. Et cette connexion entre faim et amour est incroyablement forte parce que primitivement, en fait, l'amour est égal à la nourriture. Ça, c'est vraiment avant les 3 ans, la première année, l'amour est égal à la nourriture, l'amour est égal au toucher. Et si on est privé du toucher, généralement, on est quand même alimenté, sinon on n'aurait pas survécu du tout. Et il n'y a plus que ça, en fait, pour se soulager. C'est la seule forme de soulagement que l'enfant apprend s'il est en fait, séparé du toucher de la mère. Il n'y a plus que la nourriture qui le soulage et sa propre succion de son pouce. Donc c'est par la bouche, l'autorégulation passe uniquement par là. Donc au final, eh bien, aujourd'hui, le fait de trop manger ou pas assez manger masque finalement une détresse interne de non-soulagement. Ces tendances-là vont chercher en fait à engourdir cette espèce de vide créé par un manque de nourriture affective maternelle du toucher. La nourriture est donc notre premier outil de soulagement, de recherche de satisfaction, et donc, comme je le disais, notre première source aussi d'auto-régulation. L'anorexie et la boulimie, en sont des expressions absolument extrêmes. Plus souvent, plus généralement, le fait de manger quand on a utilisé cet outil-là comme une source d'autorégulation, d'autosatisfaction, nous fait entrer dans une espèce de transe, un échappatoire, qui nous fait ensuite rencontrer, une fois que c'est terminé, des sentiments de honte, de manque de contrôle sur soi. Et puis, plus tard, leurs effets sur notre corps vont encore nous éloigner davantage d'un sentiment de se sentir à sa place, à la maison, dans notre chair, puisque notre corps ne correspond pas à l'idéal que l'on voudrait. Parce que, voilà, nous utilisons l'alimentation pour nous satisfaire. Un manque de nourriture maternelle, affective ou physique provoque donc une même recherche de comportement d'autorégulation comme sucer son pouce. Là aussi, plus tard, ça va être une source de honte pour l'enfant qui va se faire critiquer pour cette mauvaise habitude. Si en plus on le force à l'arrêter, souvent c'est à l'entrée de l'école primaire à 6 ou 7 ans, et souvent quand il n'est pas prêt pour ça, il va tomber dans l'utilisation de la nourriture pour se satisfaire. S'il n'a plus son pouce, ça va être la nourriture. Là aussi, l'apparence du corps va être affectée au cours du temps. Là aussi, il sera hautement critiqué par l'apparence de son corps, suite du coup à ses besoins d'autorégulation par la nourriture. Donc, peu importe en fait les solutions qu'il va mettre en place pour se réguler, il va finir par se sentir humilié. Et là, il va se renfermer dans d'autres échappatoires, souvent mentaux cette fois, qui peuvent être des rêveries, où il fantasme qu'il est sauvé par quelqu'un qui lui apportera enfin l'amour tant attendu. Donc c'est le chevalier qui vient sur son beau cheval blanc, etc., etc. Et c'est un amour avec quelqu'un qui le reconnaîtrait enfin dans toute sa profondeur, hein, immédiatement, au premier regard. Il a absolument, dans l'attention affective, dans la reconnaissance. Et c'est aussi quelqu'un qui enfin le toucherait. Parce que, je l'ai dit 2 voire 3 fois, le toucher maternel, c'est un manque nourricier. Plus tard, un adulte qui a grandi sans toucher va devenir intolérant au contact de l'autre, au contact physique de l'autre. Ça peut même être une aversion presque allergique qui va impacter l'intimité. Et donc, les relations amoureuses qui ne peuvent être finalement stable et nourrissante. Donc il y a ce paradoxe entre avoir faim de toucher et ne pas le supporter parce que finalement il y a eu ce manque. Et l'enfant, la petite fille surtout, va utiliser une autre substitution au toucher, dont on parle très peu, qu'elle va trouver dans la masturbation. Et elle le fait seule, mais aussi avec d'autres filles qui ont la même blessure, et cela commence très très tôt. Mais cette affection érotique-là entre filles, hein, avant l'adolescence, n'a absolument rien à voir avec leur orientation sexuelle, mais plutôt, ça a tout à voir avec la privation du toucher de la mère. Donc, des filles, en fait, qui ont vécu cette privation-là vont se retrouver et vont se donner le toucher d'une façon, un petit peu inattendue, on va dire. Mais, d'autre part, un manque de toucher maternel va provoquer souvent, une certaine perméabilité, une certaine vulnérabilité aux agressions sexuelles. Parfois, sans aller jusque-là, il est fréquent que la fillette risque de subir des comportements tendancieux des autres membres de la famille, notamment masculins, qui vont, par exemple, changer leur façon d'interagir avec elle, la façon de la regarder, en la regardant désormais comme un objet sexuel. Donc, ça, c'est un risque, ce sont des risques qui augmentent lorsque la mère, en plus de ne pas nourrir assez ou convenablement ou de façon adéquate, en fait, son enfant par rapport à ses besoins spécifiques. Donc, en plus de ce manque nourricier, il va y avoir de la part de la mère un manque de protection. La protection maternelle est aussi un élément essentiel à la survie de l'enfant. C'est la mère qui fait tampon face aux dangers extérieurs afin que les peurs ne viennent pas endommager la physiologie de l'enfant en pleine croissance et du coup notamment de l'amygdale du cerveau. Et ces dangers-là, ça peut être tout et n'importe quoi. L'absence d'une maison physique, d'un toit, donc d'un refuge. Ça peut être aussi des frères et sœurs un petit peu trop jaloux qui risqueraient de faire du mal au bébé. Ou bien des adultes qui manquent de sensibilité. Naturellement, pour les filles, on a également en plus un danger qui vient de la société elle-même, qui va les dévaloriser dans leur genre, ou au contraire, les objectifier. Donc oui, la mère doit aussi protéger ses enfants d'une culture encore bien trop patriarcale dans ses expressions. Et pourtant, c'est l'inverse qui se passe, parce que même si c'est de façon inconsciente, beaucoup de mères vont donner la priorité à leur fils, ou aux garçons de la famille, que ce soit un neveu, un cousin, etc., parce qu'elles ont été élevées dans cette ambiance toxique de favoriser le masculin. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont donner plus d'attention à leur mari, à leur amant, qu'à leur enfant. Et ça, c'est une protection qu'elle ne donne pas, qui est un petit peu plus insidieuse à voir. Et ça, c'est sans parler en fait de tous les dangers ouverts que sont aussi la pornographie, les prédateurs sexuels, les risques d'abus sexuels. Mais voilà comment une femme, en fait, elle-même qui porte cette blessure, donc elle-même apeurée, peut protéger. Comment une femme elle-même sacrifiée au bien-être des hommes, en fait, peut-elle forcer un autre homme à respecter sa propre enfant ? Soit la mère, elle est trop apeurée, soit elle est trop vulnérable. Et ce que je veux dire par là, si elle est trop vulnérable, en fait, c'est qu'il est impossible pour elle de gérer les grandes émotions de son enfant. Elle va le repousser parce qu'elle-même ne sait pas faire avec ses propres inconforts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui vont grandir sans cette protection-là et qui vont devoir apprendre à vivre avec, cette absence de gestion intérieure de leur anxiété. Elles vont devoir vivre avec ces peurs, tout simplement. Et vivre ainsi font qu'elles arrivent à l'âge adulte déjà absolument épuisées. Il n'y a personne pour réguler ces peurs, ces anxiétés. On ne leur a pas appris comment faire. On ne l'a pas fait pour elles. Et puis, tout simplement parce que on les a privées aussi, après toute une journée de séparation avec la famille, la mère, la maison, de trouver un endroit, en fait, où ils peuvent rentrer, faire des erreurs sans être puni, à apprendre à mettre en place des limites saines sans peur, de générer du conflit ou du chaos, et tout simplement à se détendre après une journée de pression sociale. Et aujourd'hui, il y a même le nouveau phénomène des pressions numériques, hein, qui est un nouveau danger supplémentaire. Voilà, ça donne des femmes qui arrivent déjà épuisées aux portes de l'âge adulte. Globalement, les symptômes d'un manque de protection maternelle peuvent se voir donc au niveau du timing chez l'enfant, donc au niveau enfant, par donc des dissociations, à ce que j'ai appelé plutôt des rêveries en journée, donc il fantasme, il est dans sa tête. Du coup, des problèmes de concentration et ou de mémorisation, il a du mal à apprendre. D'anxiété, puisqu'elle n'est pas ses peurs ne sont pas régulées. Hein. Une tendance aussi au perfectionnisme pour obtenir en fait la valorisation, la validation de la mère. De l'hyperactivité, des problèmes de posture et ou de coordination musculaire. Et on parlait des émotions intenses, donc des éclatements en fait de rage, des éclatements de tristesse. Et puis au niveau du corps, c'est des douleurs digestives, il a du mal à avaler, donc il a du mal à digérer, des migraines aussi. Plus tard, donc là on shift un petit peu de timing, on arrive à l'adolescence, tout cela va continuer, c'est les mêmes, mais en plus ils vont pouvoir se transformer ou se remplacer par eh bien, une grande sensibilité, notamment du coup par rapport aux émotions qu'il vit, mais aussi des sensibilités de l'ordre des sens. Donc il y a des tissus par exemple qui vont causer chez lui des énormes sautes d'humeur, donc des perturbations de l'humeur aussi, des problématiques comme on l'a vu alimentaires, puisque du coup à cet âge là on leur a enlevé toute autre substitution d'autorégulation, des troubles du sommeil notamment à cause de cette anxiété chronique et des menstruations douloureuses en ce qui concerne les filles. Nous l'avons vu, la protection d'une mère est celle aussi de la protection de la sexualité de son enfant. En particulier, un manque de protection là, chez les filles, va provoquer la haine d'elle-même et de son corps. Donc elle n'arrive pas à s'aimer, mais en plus, eh bien du coup, elle va tourner ce manque d'amour vers une détestation d'elle-même qui entraîne, on l'a vu déjà dans l'explication des symptômes de la blessure, des comportements destructeurs. Au niveau sexuel, ça va être l'acceptation de pratiques irrespectueuses. Elle va avoir aussi le besoin d'être sexy avant tout le reste et désirable tout le temps. Ça provoque aussi du coup le besoin de s'identifier avec le pouvoir sexuel qui n'est pas ici la liberté sexuelle, hein, c'est le pouvoir, la dominance sur l'autre, avec notamment des gestes obscènes, une tendance à faire des danses très expressives, le pole dance, le twerk, tout ça. Et puis souvent, en fait, elle se sent totalement perdue entre ces deux extrêmes, qui sont tous les deux négatifs, être une salope d'un côté, ou être une prude de l'autre. Et en fait, quand deux polarités sont négatives, parce que normalement il y en a une polarité positive et une polarité négative, ici c'est deux polarités mais qui sont négatives, eh bien ça met les femmes et les filles dans une impasse psychologique. Il n'y a pas de bonne solution. Dans tous les cas, un manque de protection de la mère amène donc de l'anxiété, mais aussi, on l'a vu, de la culpabilité et un sentiment de honte chez l'enfant et qui va perdurer comme ça insidieusement chez l'adulte. Sans des fondations solides de sécurité, la personne va tomber dans l'addiction à l'amour, dans l'addiction sexuelle, dans les troubles alimentaires et aussi une addiction au travail, donc travailler de façon compulsive en espérant finir par gagner un jour l'approbation de la mère avec l'effort. Et ça se voit également dans le sport à l'excès, hein, c'est les mêmes raisons. Donc, au final, c'est des adultes fatigués, parce que peu importe à quel point l'enfant a grandi, il continue de penser que s'il fait enfin la bonne chose, que s'il dit enfin le bon mot au bon moment, eh ben la mère va enfin le protéger et l'aimer. Voilà, que c'est dans ses talents en fait à lui, dans ses possibilités d'enfant, même plus tard d'adulte, d'agir de telle façon à ce que ça puisse calmer sa mère et lui apporter, en fait, l'amour tant attendu. Donc, il a fait à l'excès pour obtenir l'amour protecteur, dans le sens protecteur. Il a fait sans repos pour combler le vide de la protection. Et c'est un éternel échec qui le laisse finalement sur les genoux. L'absence de protection se traduit vraiment par une fatigue à l'âge adulte. Le troisième pôle du rôle de la mère, c'était de guider. En grandissant, les enfants, mais surtout les filles, regardent leur mère leur apprendre ce que c'est d'être une femme, en simplement agissant en tant que femme. Donc la façon dont notre mère nous respecte et prend soin de nous va influencer notre manière de traiter les autres, notamment les autres femmes, et de nous traiter nous-mêmes. Notre mère nous apprend par l'exemple de son comportement à équilibrer finalement la force et la tendresse, la gentillesse, par exemple. Cependant, si une mère n'a pas assez donné de nourriture et de protection à sa fille, eh bien celle-ci ne va pas avoir confiance en la guidance de la mère. Elle ne va pas vouloir la prendre pour exemple. Leur lien est beaucoup trop fragile pour cela. Au contraire, elle va plutôt se rebeller, s'éloigner de l'exemple comportemental maternel. Pourtant, à la base, c'est tout à fait naturel pour une fille de suivre l'exemple de la mère par imitation. L'enfant fonctionne comme ça. D'ailleurs, elle va regarder sa mère de façon très intense dès ses premiers mois, hein, fille ou garçon, pour trouver des indices sur le visage de la mère, notamment pour apprendre à déceler la sécurité de l'ambiance. Ainsi, un regard froid de la part de la mère va être enregistré dans le système neuronal de l'enfant comme la présence d'un danger. Alerte. Parfois, lorsque la mère s'aperçoit que sa guidance est compromise, hein, du coup parce que sa fille se rebelle, que ça ne marche pas, elle peut tomber dans le contrôle. Donc elle peut devenir contrôlante. Or, le contrôle implique de devoir dépasser les limites de son enfant. Un enfant qui, pour toujours chercher à apaiser sa mère, va donner son accord à traverser ses limites et finir ainsi par abandonner sa conscience d'elle-même. D'un autre côté, il y a aussi les mères qui utilisent leurs filles pour avoir leur amitié, et ça va les empêcher de grandir. Elles utilisent en fait leur pouvoir maternel qu'elles exercent sur leur enfant à mauvais escient. Elles vont se servir de la proximité avec leur enfant, de leur admiration, pour obtenir ce qu'elles veulent, c'est-à-dire un besoin relationnel et amical, mais en évitant de prendre le risque d'être rejetée par d'autres femmes adultes, qui, elles, devraient normalement combler ces besoins-là relationnels. Parfois, cette manipulation peut même aller jusqu'aux menaces de la part de la mère à se suicider. Elle le dit à sa fille. L'enfant va alors prendre la responsabilité des humeurs de sa mère, de la vie de sa mère, de ses besoins, de ses désirs, en perdant ainsi toute chance de se focaliser sur les siens. C'est ce qui s'appelle, en langage psychologique, l'enchevêtrement. Donc un enfant, une fille surtout, hein, en enchevêtrement avec sa mère, va avoir l'impression de la trahir en voulant, par exemple, la quitter quand elle a l'âge et avoir son propre espace, ou en se mettant en couple. Et parce que le fait d'être en couple est comme une trahison, envers la loyauté qu'elle a à sa mère, elle va se tourner inconsciemment vers des partenaires avec lesquels elle est quasiment certaine d'échouer à créer une relation longue. Donc elle va éviter certaines personnes, notamment les green flags, comme on appelle ça, les relations saines. L'absence d'une guidance saine entraîne ainsi chez la fille devenue adulte une comparaison déjà constante avec les autres femmes, un besoin de compétition avec les autres, même si c'est fictif, que c'est uniquement dans sa tête, pour l'attention des hommes. Donc, comparaison, compétition. Un sentiment d'insatisfaction de son apparence corporelle, de son apparence, qui va en fait faire qu'elle va y mettre toute son attention. Aussi le fait de se sacrifier dans les relations générales et en particulier dans le foyer. Donc par exemple assumer entièrement toutes les tâches ménagères et ne pas les diviser. Il va y avoir aussi une préférence pour les hommes, hein, comme on en a parlé, plutôt que les femmes, les filles. Donc plutôt des relations amicales avec des hommes. Elle va y avoir également un sentiment d'insécurité à être différente de sa mère. Donc la fille va tout faire en fait comme sa mère pour éviter les critiques. Donc elle va s'habiller comme le demande sa mère, plier les serviettes comme sa mère l'a toujours fait, garder ses propres opinions pour elle-même pour ne pas créer le chaos, tout ça, tout ça. Elle va forcément avoir l'impression de n'être jamais assez bien, ce qui en général entraîne une loyauté excessive aux abuseurs, hein, afin de continuer en fait d'avoir un sentiment d'appartenance, même si c'est à une maison, une famille ou des amis qui sont absolument toxiques pour elle. Et puis, ça va amener forcément aussi à abandonner ses propres enfants. Le plus difficile ici, c'est de voir à quel point la blessure de notre mère est responsable de notre incapacité à identifier les comportements abusifs des autres sur nous, notamment ceux d'ordre émotionnel. On ne les voit pas, tout simplement parce que pour nous, ils sont avant tout familiers. Ce sont des douleurs affectives, donc invisibles, et qui sont pires encore lorsque malheureusement, parfois, eh bien, c'est la mère qui est aussi un abuseur physique. Son toucher est agressif, irrespectueux, entre des fessées, des coups, ou même, dans certains cas, des abus sexuels. Le contact maternel, on l'a vu, redit plusieurs fois, est nourricier. Donc si ce contact nourricier devient irrespectueux, ça va laisser alors des dommages encore plus extrêmes dans l'individu. Dans ce genre de cas, cet atelier ne pourra absolument pas suffire en lui-même, même s'il vous aidera à y voir un petit peu plus clair, peut-être à commencer le travail, à avoir le courage en fait, d'aller chercher de l'aide. Vraiment, si vous êtes dans des situations comme ça, je vous prie de tout cœur de consulter un professionnel, notamment du trauma. Axez vraiment là-dessus, hein, pour vous aider. C'est très très compliqué d'y arriver seul. Dans ces cas d'abus maternels et ceux de négligence intense ou d'enchevêtrement, hein, c'est les trois niveaux en fait les plus difficiles, hein, ce qu'on ne peut pas traverser seul, hein. Abus maternel, négligence très intense, et le phénomène d'enchevêtrement, hein, on l'a vu, où la mère, en fait, utilise l'enfant, sa fille, pour être sa pote, eh bien, ces trois-là vont catégoriser le lien avec la mère de l'ordre du traumatique. Et ça, c'est le quatrième type d'attachement, hein. On a vu, on a parlé de l'attachement sécurisant. Et dans le type c'est insécurisant, on en a défini deux, le type anxieux et fuyant. Donc on a sécurisant, anxieux, fuyant. Et le quatrième, c'est celui-là, et on l'appelle attachement désorganisé. Il est un mélange pour l'enfant de besoin de réconfort de la part de la mère et en même temps d'une peur de la mère. Donc quand il va voir sa mère, notre amant, après un moment de séparation, il va être confus, désorienté, entre ses besoins extrêmes eh bien, de réconfort et d'amour de la mère, et en même temps de la fuir parce qu'elle est tantôt réconfortante, tantôt dangereuse pour lui. Devenue adulte, la femme risque alors de vivre une loyauté aveugle qui menace parfois sa survie même, qui la mène parfois à faire l'expérience de violences domestiques, parce que son cerveau est endommagé par ce genre d'entachement désorganisé, et qu'il finit, au bout d'un moment, en fait, par apprendre à ignorer les signaux de survie, parce qu'il les juge secondaires. Vivre dans des abus comme ça, de manière cyclique, nous enferme en plus dans une honte qui est toxique pour nous et qui nous questionne sur le fait même d'avoir le mérite de vivre, de mériter de vivre, d'avoir le droit d'être ici. C'est une atteinte à la vie et à la vitalité de notre être. peu importe le niveau de manque maternel que vous avez vécu, hein, qu'il soit d'ordre nourricier, protecteur ou de guidance d'ailleurs, je vous invite à regarder dans ces trois domaines si vous avez vécu un manque maternel. Dans tous les cas, la première étape, c'est de commencer à arrêter de poursuivre l'amour de la mère et de faire en fait le deuil de la mère idéale, d'aider l'enfant intérieur à faire ce deuil, de lui apporter un sentiment de « c'est fini maintenant ». Donc ça, souvent, eh bien, ça se passe de façon plus simple quand la mère est décédée. C'est un travail généralement qui on se tourne vers la psychothérapie une fois qu'il y a eu le décès de la mère, parce que du coup, on n'a plus l'impression en fait de la trahir en faisant ça. Mais oui, il est temps pour notre enfant intérieur d'arrêter de poursuivre la quête insatiable de l'amour maternel. Il est temps en fait de mettre l'âme, la partie de nous qui a faim, au repos, et de la laisser pleurer. De laisser pleurer toutes ces plaies-là engendrées qu'elle n'a pas voulu voir parce que c'est trop dur. Et que ça la met en péril en fait. Et que, en fait, le péril viendrait d'abandonner la quête insatiable de l'amour maternel. De devoir mettre une croix dessus et du coup de ne jamais l'obtenir. Et à la place, de dire qu'on va continuer cette quête-là, mais qu'on va juste l'orienter un petit peu ailleurs. Parce que là, c'est une voie sans issue. C'est une impasse. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une impasse? On fait demi-tour et on va trouver la destination ailleurs. Donc, chers enfants intérieurs, c'est ce qu'on va faire ici. Mais pour cela, il faut déjà se dire qu'on est dans une impasse et qu'il faut faire demi-tour. Il va falloir faire le deuil de cette direction-là, le deuil d'être arrivé dans une impasse. En prenant le temps de se reposer, hein, du système faire pour obtenir l'amour, prenant le temps de pleurer, eh bien, ça va nous faire du bien, forcément. Mais abandonner, ça passe aussi par dévoiler la blessure que l'on a de la mère en soi. Donc cet audio vous a mis déjà un petit peu sur la piste, mais vous trouverez aussi dans la suite différents questionnaires pour aller explorer la vôtre par écrit, pour pouvoir contempler, réfléchir et dévoiler au final les catégories aussi de blessures causées par la mère. C'est ce qui va vous donner la permission de voir que vous êtes bel et bien dans cette impasse, donc de prendre conscience de là où vous êtes. Bah tiens, j'ai tracé ma route dans cette direction-là et je suis coincée par une barrière, il n'y a plus de chemin, c'est fini, mais moi je persévérerai. Donc, répondre aux questions qui vont suivre vont vous permettre et vont permettre à votre enfant intérieur de changer d'orientation, tout doucement. Mais de voir déjà qu'il y a une raison à tout ce qui est vécu ici, à cette blessure-là. Donc oui, prenez le temps, mais surtout, ne zappez pas ces questions. Elles sont vraiment très importantes. Si vous n'arrivez pas à les faire, prenez le temps. Vous pouvez en faire une par jour. Pleurez pendant 10 jours, c'est pas grave. Mais ne passez pas à la suite sans avoir cherché à dévoiler la blessure causée par la mère ici. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour la suite.